Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, l'Irak est-il le symbole de l'échec du nation building? La publication, au début du mois de décembre dernier, par le Washington Post des Afghanistan Papers, qui décrivent par le menu la tentative de construire, à coups de milliards de dollars, une nation démocratique en Afghanistan à partir de 2001, a remis sur le devant de la scène l'expression désormais désuète peut-être de nation building. L'Irak a été un autre des terrains sur lesquels s'est exercée cette idée de mettre en place un état fort et démocratique dans le pays auparavant dirigé d'une main de fer par Saddam Hussein. L'actuel montée des tensions entre Iran et États-Unis sur le sol irakien permet de se poser la question de la validité de cette création intellectuelle qu'a été justement cette expression de nation building, de construction d'une nation un peu de force. Alors nous en parlerons avec Myriam Benrad, elle est avec nous au téléphone, elle est politologue et chercheuse associée à l'IREMAM CNRS, autrice de l'Irak par-delà toutes les guerres au cavalier bleu. Pierre-Jean Luisard est également avec nous, il est historien et directeur de recherche au CNRS, auteur de Chiites et Sunnites, la grande discorde en 100 questions qui vient de ressortir chez Talendier à l'automne dernier. Et Adel Bagawan est également avec nous. Il est sociologue, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'université de Soran, chercheur associé à l'IFRI et auteur en 2019 de l'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un État. C'est aux éditions de l'Harmattan.
Si nous n'arrêtons pas de déployer nos troupes à travers le monde dans une sorte de mission de nation building, nous risquons de rencontrer de sérieux problèmes. Et je vais empêcher ça.
Il est temps de récupérer une partie de l'argent que nous dépensons dans les guerres, de rembourser notre dette et d'utiliser le reste pour faire du nation building, ici, à la maison.
Si je deviens président, l'ère du nation building prendra fin de manière rapide et résolue.
Voilà, vous avez peut-être reconnu le timbre de voix de George Bush, c'était en 2000, de Barack Obama, c'était en 2012, et de Donald Trump en 2016. Tous les trois, alors qu'ils étaient en campagne, avaient promis d'en finir avec cette idée de nation building. Bonsoir à vous, Myriam Benrad, bonsoir, vous êtes au téléphone avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Adel Bakawan.
Bonsoir.
Merci d'être là. Et bonsoir à vous, Pierre-Jean Luisard. Vous êtes l'historien du trio. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous me disiez, juste avant de commencer cette émission, bah oui, le nation building, ça n'est pas les États-Unis qui l'ont inventé. Ce sont les puissances européennes à la fin de la Première Guerre mondiale, en tous les cas.
Voilà, exactement. L'Irak, sous son nom d'Irak et dans les frontières qui sont celles d'aujourd'hui, n'a jamais existé avant 1920, lorsque le haut commissaire britannique a proclamé un nouvel État, l'État irakien, qui se voulait un État arabe sur les ruines des provinces arabes de l'Empire ottoman en Mésopotamie.
C'était donc il y a un siècle exactement.
C'était un siècle exactement et nous allons commémorer en 2020 un siècle après un mouvement majeur contre le mandat britannique qui avait uni exceptionnellement sunnites et chiites.
Néanmoins, Adel Bakawan, on peut dire qu'il y a une sorte de relance de cette idée avec cette expression de nation building à partir du début des années 2000 par les États-Unis qui sont très impressionnés par des théories qui disent que tout compte fait pour exporter la démocratie, pour faire en sorte que très rapidement s'instaurent des États démocratiques sur les ruines d'États autocratiques, eh bien le mieux c'est de construire des institutions, de les imposer de force et puis peut-être de voir si ça fonctionne.
Oui, juste avant de répondre à votre question, une petite remarque. Moi, je prends de la distance toujours avec deux thèses qui sont en confrontation lorsqu'on aborde la question de l'État et la nation en Irak. La première thèse qui c'est la thèse des pan-nationalistes arabes qui vont nous faire croire que l'Irak existe en tant qu'État unifié, nation unifiée depuis le 7e siècle.
Depuis la conquête musulmane.
Depuis centaines d'années. Et que cet État a une longue tradition étatique, une grande tradition nationale, et que l'Irak n'a jamais été divisé pour que les Britanniques arrivent l'unifier les trois provinces. Donc ça, je prends de la distance avec cette thèse, même si dans cette thèse, bien évidemment, il y a une certaine une certaine crédibilité à un certain niveau, parce que là, il faut reconnaître que l'Irak, c'est le pays des grandes civilisations, des Sommeurs jusqu'à des Ottomans, jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et puis on peut reconnaître que les nations européennes ont elles-mêmes essayé de se créer des identités multiples au 19e siècle en allant le plus profondément dans l'histoire.
Et la deuxième thèse, évidemment, je prends un petit peu de distance, mais je nuance avec un Irak qui n'a jamais existé et qui a été fabriqué en toutes pièces par les Britanniques. C'est vrai, c'est l'Irak moderne en tant qu'État a été fabriqué par les Britanniques, mais en même temps, il y a quand même une dimension de l'histoire. C'était juste une petite remarque. Et pour répondre à votre question rapidement et d'une manière vraiment très très synthétique, c'est vrai, en 2003, lorsque les Américains arrivent, ils ne trouvent pas en Irak ni un État, ni une population unifiée, ni une nation. C'est le vide total. Et à partir de ce vide, ils voulaient vraiment créer un État, une nation, une identité nationale. Et le résultat, aujourd'hui, on le voit.
Oui, Myriam Benrad, vous êtes avec nous au téléphone. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheuse associée à l'IREMAM et que vous êtes auteur de l'Irak, la revanche de l'histoire, entre autres, c'est aux éditions du CNR, de Vendémiaire, mais également de l'Irak par-delà toutes les guerres aux cavaliers bleus. Sur cette question, justement, de pérennité, nouveauté d'un État irakien et création d'une nation à partir de 2003 et l'arrivée des Américains, qu'est-ce que vous avez à nuancer des positions de nos deux autres intervenants?
Alors bon, peut-être ajouter un élément, parce que on a entendu à la fois Bush, Obama, Trump. Moi, j'aimerais revenir sur les termes. En fait, ce qui est quand même assez flagrant, il y a plusieurs choses dans le discours américain, enfin dans ces trois extraits qu'on a entendus, c'est la confusion tout d'abord entre deux notions, le nation building et le state building, hein, parce que finalement, ces deux notions qui renvoient respectivement à la question de la nation et à celle de l'État, donc là, je rebondis sur ce qu'a dit du point de vue irakien Adel Bakawan, ce n'est pas la même littérature, ce ne sont pas les mêmes approches.
Il faut rappeler que Francis Fukuyama, par exemple, a travaillé sur le state building, celui-là même qui avait pensé la fin de l'histoire à un moment, et que effectivement, il avait plaidé pour une intervention moins ambitieuse que les programmes de nation building, en disant il faudrait faire du state building. Alors, c'est quoi la différence, selon vous, Myriam Benrad, entre ces deux positions?
La différence, tout d'abord, on peut parler après des applications, mais au niveau du state building, on est plus sur les structures, les institutions, etc. Au niveau de la nation, il y a vraiment cette idée de refaçonner un pays, de créer de manière exogène des communautés nationales, donc qui n'en sont pas par ailleurs. Enfin, dans le cas de l'Irak, j'aimerais nuancer quand même, parce que je pense que la question du nationalisme ou de la nation en Irak est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais en tout cas, on a cette confusion entre les deux approches qui, elles-mêmes, d'ailleurs, je vais peut-être rajouter ça, ces deux approches dans la littérature, elles sont assez confuses. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, si on regarde ce qui s'est passé à partir de 2003, et là, je suis sans doute en désaccord avec Adel Bakawan, en réalité, au-delà de la rhétorique stratégique américaine, il n'y a eu en Irak depuis 2003 ni state building, en dépit des investissements massifs, du contexte d'occupation militaire, du calendrier de transition qui a été négocié entre Irakiens et Américains. Au-delà de tous ces aspects, il n'y a pas eu de state building et il y a eu encore moins de nation building. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit et j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect parce que ça me semble primordial. C'est plutôt une déconstruction nationale à laquelle on a assisté et à laquelle on continue d'assister à travers les derniers événements.
Et puisque vous nuancez les propos d'Adel Bakawan, il va vous répondre tout de suite.
Peut-être je ne me suis pas très bien expliqué. Je disais, le projet n'a pas réussi. Le projet non seulement n'a pas réussi, non seulement on n'a pas pu construire un peuple, comme disait le roi Faisal dans les années 20. Vous m'avez nommé comme roi, le roi d'un État dans lequel il n'y a pas de peuple, il n'y a pas le peuple irakien, il n'y a que des minorités et surtout une minorité arrogante sunnite. Et en 2003, de 2003, et je finis, de 2003 à 2019 à 2020, on n'a qu'une majorité arrogante et on n'a pas ni État ni nation irakienne.
Alors cette majorité arrogante, il faut le préciser à vos yeux, mais également aux yeux de beaucoup d'autres, c'est la majorité chiite en l'occurrence. Pierre-Jean Luisard.
Oui, alors il faut revenir sur un aspect important de l'histoire, c'est que le concept de nation est d'origine européenne. Il a essaimé à la faveur des conquêtes coloniales, les mandats étant la dernière mouture de l'expérience coloniale, avait pour mission de fonder des États-nations impliquant qu'il existait une nation. Or, il n'y a, on l'a montré, les uns et les autres, pas de nation irakienne. L'État dont dépendaient les trois provinces de la Mésopotamie était un État dont les fondements n'étaient pas ethniques mais religieux. C'était le califat et le sultanat, donc une alliance du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et les chiites d'Irak, qui étaient arabes majoritairement, avaient un fort sentiment d'arabité, al-Uruba, mais ils n'avaient aucune notion de ce que pouvait signifier la nation, le nationalisme et le, à plus forte raison le nationalisme arabe. Donc paradoxalement, on se rappelle que ce sont les Anglais qui ont suscité pour saper les fondements religieux de l'Empire ottoman des réflexes nationalistes qui ont pris au Levant et en Égypte, mais qui étaient pratiquement inconnus en Irak.
Alors dans un article récent, l'historien Jean-Pierre Filliu disait 16 ans de politique erratique des États-Unis en Irak, il mettait tout le monde dans le même sac. Tous les présidents américains qui ont évolué dans cette région, disait-il, ont échoué en éliminant Saddam et les talibans. Bush avait libéré l'Iran de deux ennemis, disait Jean-Pierre Filliu de cet entretien. Il disait, on a versé, je ne sais si c'est vrai, 1000 milliards de dollars depuis 2003 sur l'Irak. C'est ça le nation building ou le state building, en l'occurrence Adel Bakawan?
Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais ce que je sais, c'est que entre 2003 et 2020, désormais il faut dire 2020, on n'est plus en 2019, tout ce qui a été fait par la communauté internationale en Irak a échoué. Tout ce qui a été fait par les pays du système régional a échoué. Et les acteurs irakiens à ce jour-là, les acteurs majeurs, bien évidemment, on nous parle souvent des micro-groupes, des associations, des petits partis politiques, des acteurs mineurs qui ont élaboré une certaine irakicité, un certain projet d'une irakicité inclusive. Moi, ce qui compte pour moi, ce sont les grands acteurs, les grands partis politiques qui agissent sur les rapports de force, sur le champ politique, sur les grandes orientations. À ce jour-là, ni dans le territoire sunnite, ni dans le territoire chiite, ni dans le territoire kurde, je ne vois pas un acteur majeur, un parti politique majeur qui dispose d'un projet national et qui est porteur d'une identité nationale. Ces acteurs-là sont traversés par plusieurs fractures ethniques, religieuses, confessionnelles, etc.
Myriam Benrad.
Je pense qu'il faut quand même, encore une fois, essayer de recentrer les termes. Si on se fonde sur la référence au nation building, c'est l'idée de construire une nation, mm-hmm. de reconstruire une nation en usant du pouvoir de l'État. Mm-hmm. Et pour revenir à cette question du projet américain, j'insiste, je ne pense pas pour ma part que les Américains partaient avec un quelconque projet. On était dans l'après 11 septembre, dans le contexte de la guerre contre la terreur, et il y a eu cette association idéologique par l'administration américaine entre le régime de Saddam, qui était de toute façon un régime ennemi depuis très longtemps, qu'on avait essayé par ailleurs de renverser au cours des années 90, et la nébuleuse djihadiste transnationale. Ça s'est fait un peu comme ça, mais il n'y a pas vraiment de projet. On le voit en 2003. Donc, comme je l'ai dit, le nation building qui suppose un pouvoir de l'État, que font les Américains dès 2003? Que fait la coalition provisoire dans le pays, sous la tutelle à l'époque de Paul Bremer? Eh bien, elle fait tout le contraire, en fait. Elle démantèle l'armée, elle met à bas les administrations, les institutions. Donc, on a un effondrement de l'État irakien à l'époque. Donc, sans État, comment, de toute façon, infuser un quelconque sentiment national, comme l'a dit Pierre-Jean Luisard, parmi une population qui, par ailleurs, s'est construite de manière...
avec d'autres identités.
Dans le sens national, c'est construit autour de d'autres identités, qui a été rassemblée eh bien, par le pouvoir colonial, au sein de cette entité à partir de 1921. La période postcoloniale est faite d'une grande violence qui va aussi, indépendamment des ingérences étrangères, participer de ce que j'ai nommé déconstruction nationale. Pour autant qu'il y ait eu, encore une fois, une construction nationale comme on l'entend en Europe, Mais les Américains ont vraiment fait tout le contraire. Et au-delà, au niveau idéologique, je le répète, j'insiste, il n'y avait pas de projet, quand je parle de projet, au-delà de la rhétorique lapidaire donc de Bush à l'époque, les Américains ne sont pas partis avec un projet politique. D'ailleurs, ils n'étaient pas non plus partis avec l'idée de s'installer durablement dans le pays. L'idée, c'était plutôt de transmettre le pouvoir rapidement à un gouvernement intérimaire et de quitter l'Irak.
On est 16 ans plus tard,
cette occupation. Ah oui, non, mais même cette occupation, il faut dire qu'elle n'était pas... Certains l'encourageaient, c'est vrai, mais il n'y avait pas de consensus à Washington à l'époque. Et je pense vraiment qu'on est, en tout cas en 2003, si on prend cette année comme point de référence pour comprendre le désastre, le fiasco irakien, en 2003, c'est vraiment une succession de mesures improvisées et une détérioration du fait de l'occupation qui pèse encore aujourd'hui sur la situation.
Oui, Pierre-Jean Luisa.
Oui, pour bien faire comprendre le destin de ce qu'on appelle l'État irakien fondé en 1920 jusqu'à nos jours, il y a eu en fait deux États irakiens qui se sont manifestés à travers un fonctionnement occulte qui est celui du communautarisme et du confessionnalisme politique. De 1920 à 2003, il y a eu une domination d'une minorité arabe sunnite. Les arabes sunnites font environ 20% de la population et la révolution antimonarchique de 1958 n'a pas changé cet ordre des choses. En 2003, les Américains ont pris les exclus de l'ancien système, les chiites et les kurdes, sans grand plaisir d'ailleurs parce qu'ils voyaient revenir des enturbanés tout droit arrivés d'Iran, mais ils n'avaient pas d'autre choix et c'est l'une des tragédies de l'Irak, c'est que les ingérences étrangères s'accompagnent toujours d'un communautarisme et d'un confessionnalisme qui opposent les Irakiens les uns aux autres et qui empêchent l'émergence de toute société civile unifiée et de tout espace public.
Alors on écoute un petit extrait des manifestations qui se sont déroulées justement devant l'ambassade des États-Unis, c'était il y a quelques jours, et puis on rediscute avec vous trois de cette question de l'échec du nation building en Irak.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Alors c'était le 31 décembre dernier, des manifestants pro-iraniens devant l'ambassade américaine à Bagdad. On a compris ensuite la montée des tensions entre États-Unis et Iran sur le territoire irakien. Il faut peut-être revenir sur cette séquence qui n'est pas aussi éloignée que celle que nous avons débutée tout à l'heure à partir de 1920 jusque dans les années 2003. Mais cette séquence récente, celle qui commence à l'été dernier et qui se déroule depuis en Irak, ces manifestations nombreuses, ces populations qui descendent dans la rue, qui contestent la corruption du régime tel qu'il a été instauré depuis quelques années, qui disent, après avoir dit nous voulons du travail, nous voulons une patrie, qui disent Iran dégage, toutes ces questions qui sont dites dans la rue à Bagdad, et peut-être aussi ce qui s'ensuit, c'est-à-dire ce conflit entre Iran et États-Unis sur le territoire irakien, Adel Bakawan.
Oui, mais ce que vous avez dit, c'est très intéressant. C'est ce mouvement de contestation, le slogan majeur de tous les acteurs, hein, les trois acteurs que je nomme, les jeunes, la génération de bulldozers qui essaye de ramasser, de détruire tout, mais il n'a pas de programme.
Détruire quoi alors? Détruire la construction qui n'a pas fonctionné.
Alors en fait, le mouvement de contestation est hétérogène. Il n'est pas homogène. Hein. Il est hétérogène. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de trois acteurs qui sont ou bien pas de projet ou bien des projets antagonistes. Alors le premier acteur, c'est la jeunesse, les jeunes, la nouvelle génération. Entre la tranche d'âge d'entre 14 et 23 ans, ces générations, c'est la génération des réseaux sociaux, du Facebook, du Twitter, de Snapchat, etc. Ces générations n'ont pas de leader, n'ont pas de programme, n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de vision, n'ont rien. Et le seul langage qu'ils maîtrisent, c'est détruire la chute. C'est la chute de quoi? On ne sait pas, du régime, du président, du premier ministre.
Ils sont des acteurs majeurs de ce qu'on appelle la révolution d'octobre, à partir du 1er octobre.
Un des acteurs majeurs. La, la deuxième catégorie, j'appelle les lénines sans parti communiste, c'est-à-dire les intellectuels, les avocats, les médecins, les professeurs, les chercheurs. Ils sont là, ils essaient de conceptualiser, de théoriser ce que j'appelle un mouvement social. Mmh. Un mouvement social avec un programme bien déterminé, négociable avec le gouvernement, avec l'État. Avec cette catégorie, on peut discuter, bien évidemment. Et la troisième acteur, ce sont les partis de l'opposition officielle et officieuse. C'est-à-dire quoi, officielle? C'est-à-dire le mouvement de Sadr, le mouvement de Hakim, le mouvement de Haider al-Abadi, etc. Mais aussi l'opposition non reconnue comme les éléments bassistes qui sont là et qui sont très, très actifs dans le mouvement de contestation. Mais je voulais juste ajouter une petite phrase, une petite clarification par rapport à cette l'histoire. Pourquoi? Parce que personnellement, je pense que si aujourd'hui on n'a pas réussi pendant cette longue histoire-là à construire cette nation irakienne, cette identité irakienne, je pense personnellement le péché originel, pour reprendre une terminologie chrétienne, se trouve en 1920-1921. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a jamais eu la question d'un contrat social en Irak, ni chez les Britanniques, ni chez les Américains, ni en 1921, ni en 2003.
Qu'est-ce que vous appelez un contrat social? Alors, je vais brièvement, parce qu'il faut donner la parole aux autres intervenants.
Rapidement. Vous savez, le roi Faisal a été nommé en août, si je me souviens bien, c'était vers 15 août 1921. Mais avant la nomination du roi Faisal, on avait déjà un ministère de la Défense. On avait déjà une armée irakienne. Autrement dit, l'armée irakienne précède la création de l'État irakien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Anglais, ils voulaient créer cet État et cette nation irakienne par la violence, dans la violence, contre la majorité absolue de cette population, à savoir les chiites et les kurdes. Et si je reprends en 2003 aussi, c'est exactement la même méthode à l'inverse, c'est-à-dire quoi? Une seule phrase, c'est-à-dire les Américains, ils vont passer par la violence pour imposer leur vision de l'Irak, ce qui n'a pas été une réussite.
Pierre-Jean Luizard, puisque vous êtes historien, oui, et qu'on nous retire, on repart en arrière, que je voulais parler de la situation contemporaine.
Je crois que ça a quand même une utilité, et là je reprends ce que vient de dire avec justesse Adel Bakawan. Le roi Faisal, le premier roi d'Irak, du royaume arabe d'Irak, en 1921, tel qu'il s'est appelé, avait cette expression, l'armée et la colonne vertébrale de la nation. Tout était dit. C'est-à-dire que le système politique, l'État irakien, s'est fondé dès le début dans une optique de répression de la société dans ses différentes composantes. Et à partir de 2003, on a le même phénomène. Il y a une chose qui unit aujourd'hui les chiites, les sunnites et les kurdes, c'est la détestation de leur classe politique, qui est accusée d'incompétence, de corruption, de favoriser les milices hors champ légal et d'avoir mené la société irakienne, qui est dans un état de délabrement avancé, là où elle en est. Donc si les contestataires aujourd'hui n'ont pas de référent politique, ça n'est pas de leur faute. Hein. C'est parce que tous les référents politiques, mais aussi religieux, sont mouillés dans la mise en place d'un système qui fait faillite aujourd'hui.
Oui, Myriam Benrad, effectivement, quand on se plonge dans cette histoire récente de l'Irak depuis 2003, on s'aperçoit effectivement de ce bouillonnement, et encore plus récente celle depuis le mois d'octobre et ce qu'on a appelé la révolution d'octobre. Il faut rappeler, on ne sait pas, 460 à 600 morts, 25 000 blessés dans ce qui s'est passé dans la répression qui a eu lieu depuis, une démission d'un premier ministre, des menaces de démission du président. Enfin, visiblement, une classe politique qui est très bousculée par ce qui s'est passé, et cela avant le conflit entre Iran et États-Unis sur le sol même irakien. On s'aperçoit de ce grand foisonnement, ce grand bouillonnement, ou ce grand bazar, pourrait-on dire, des oppositions entre milices, pouvoir d'État contrôlant des milices, milices autonomes tentant de contrôler l'État, etc., etc.
Oui, enfin, c'est un grand champ de bataille pour le contrôle de l'État, mais cet État, il est évanescent, j'ai envie de dire, parce que l'État internationalement reconnu, comme je l'ai dit, est un État failli. Vous parliez des milices. Les milices ont leurs propres institutions. En réalité, on a un dédoublement, voire un triplement dans certains cas, des institutions, des États dans l'État.
Hein, on a une milice comme les forces de mobilisation populaire qui font 146 millions, c'est ça ?
Qui sont un État dans l'État, qui, on l'a vu avec les attaques contre des infrastructures, des intérêts américains, sans que l'armée s'interpose, donc qui de fait contrôle aujourd'hui une bonne partie du pouvoir, ce monopole de la violence qui normalement devrait revenir à l'État tel qu'il est institué et internationalement reconnu, ce qui n'est pas le cas. Vous avez mentionné le divorce, et Pierre-Jean Buisard l'a mentionné aussi, entre la population et les élites. Ça, c'est très vieux, hein. Ça remonte en fait même à avant 2003. Mais enfin, ce qui s'est passé avec l'intervention militaire américaine, c'est que cette ancienne opposition à Saddam Hussein qui est revenue, elle est surtout revenue avec dans ses bagages des desseins revanchards qui consistaient à régler des comptes avec l'ancien régime au détriment de l'intérêt commun. Donc ça s'est traduit par une réorganisation communautaire du pouvoir, partisane, clientéliste, le flot de la corruption effectivement qui s'est installé, d'ailleurs qui n'est pas le propre des élites irakiennes, parce que la corruption elle a pris une ampleur démesurée pendant la première année de l'autorité provisoire de la coalition. Hein, les premiers scandales sont apparus à l'époque. Et cette élite, en fait, elle est rejetée de toutes parts parce que les hommes politiques sont qualifiés de voleurs, de voyous. Et ils ont de fait usurpé non pas seulement le pouvoir, mais les ressources. Il n'y a aucune redistribution aujourd'hui en Irak. J'ai parlé de nation building en essayant de mettre ça en rapport avec la question de l'État. Un nation building, ça suppose aussi que l'État fournisse des services, des biens, assure la pérennité des infrastructures, l'emploi, la croissance économique. Tout cela manque. Et ces manifestations auxquelles on a assisté, donc qui en quelque sorte sont un point de rupture parce que ce sont des manifestations extrêmement violentes, mais elles font partie d'un continuum de rejet d'un État qui non seulement est failli, mais qui est aux mains d'une oligarchie, comme l'a dit Pierre-Jean Buisard, corrompue, prédatrice même, parce que je crois que c'est vraiment de ça dont on parle, c'est de la prédation, et les Irakiens réclament aujourd'hui leur citoyenneté. C'est pas véritablement tourné, en effet, autour d'un programme politique ou d'une idéologie, comme ça l'a été, par exemple, concernant des mouvements sociaux passés. Mais il y a une vraie demande de citoyenneté, de reconnaissance, de dignité aussi, parce que quand je parle de services, et je vais finir là-dessus, ils n'ont pas l'eau, pas l'électricité, enfin le strict minimum pour vivre décemment est absent. Donc mettez-vous à la place de ces jeunes qui ont grandi avec la guerre, avec l'occupation, qui n'ont connu que cela. Ils demandent, ça fait partie des slogans, un État normal. Donc c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas non plus trop élaborer au niveau de leurs demandes, parce qu'elles sont quand même assez très, très élémentaires, et elles correspondent à ce que tout État constitué devrait pouvoir assurer à sa population.
Adel Bakawan, ce slogan qu'on a vu dans des manifestations avant ce conflit ouvert entre Iran et États-Unis, juste avant la période de Noël, on a vu ces manifestations qui disaient « nous voulons une patrie ». Est-ce que il faut prendre au sérieux ce terme de nous voulons une patrie, ou est-ce que c'est un espoir lointain d'un pays qui voudrait se constituer en nation?
C'est la preuve qu'il n'y a pas de patrie. C'est la preuve qu'il n'y a pas de nous voulons une nation, nous voulons un État. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'État. Nous voulons une nation. C'est la preuve qu'il n'y a pas de nation. Pourquoi il n'y a pas de nation? Parce que je ne vais pas reprendre l'histoire de 1921 jusqu'à aujourd'hui, mais au moins de 2003 à 2020. Au mois d'avril, lorsque mon livre est sorti, « L'impossible État irakien », certains diplomates européens, pour ne pas identifier un pays, me disaient « mais au moment où nous parlons de l'Irak, pôle de stabilité, l'Irak, le pivot du Moyen-Orient, toi tu sors ton livre sur « L'impossible État irakien » parce que tout simplement, dans un long chapitre, je parlais que cet État ne dispose pas en soi des infrastructures solides pour fonctionner autant que État. Cet État, c'est très simple. Il fonctionne grâce à un partenariat implicite entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran. Alors ce partenariat aujourd'hui c'est paradoxal lorsque le président américain parle de Qasem Soleimani comme un grand terroriste, l'ennemi historique des États-Unis d'Amérique. On sait très bien qu'en 2003 Qasem Soleimani était un partenaire de Paul Bremer, c'est avec lui qu'on a reconstitué l'État. Oui, pardon.
Oui, allez-y.
Alors, on a reconstitué l'État irakien et ce qui se passe, c'est que le 27 décembre 2018, Donald Trump arrive sur la base Ain al-Assad pour faire une déclaration, une petite déclaration en disant que nous sommes là, les Américains, pour uniquement surveiller les activités de la République islamique de l'Iran dans la région. Le lendemain, c'était la panique totale au sein des élites irakiennes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien une modification de ce partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran met en échec total cet État, le fonctionnement de cet État irakien.
Oui, vous écriviez dans votre livre, donc paru avant ces grandes manifestations et avant ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran sur le territoire irakien, vous écrivez « Il n'est pas exclu que l'impossible État irakien évolue vers son effondrement définitif », disiez-vous dans votre livre. Pierre-Jean Luizard, la présence iranienne sur ce terrain irakien, il faut absolument l'expliquer à nos auditeurs. Effectivement, ce que disait dans son entretien Jean-Pierre Filiu, en éliminant Saddam d'un côté et les talibans de l'autre, d'une certaine façon, les États-Unis ont laissé, ont libéré l'Iran de deux ennemis potentiels et cette libération leur a permis de s'installer définitivement ou très longtemps dans l'Irak voisin.
Alors, pas uniquement, il y a aussi un phénomène plus spécifiquement arabe, c'est que la révolution islamique en Iran en 1979-1980 a été le point de départ d'un mouvement d'émancipation des communautés chiites du monde arabe qui avait pour point commun d'être des communautés socialement dominées, politiquement dominées. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe de voir des mouvements qui ont été anti-système pendant longtemps, comme le Hezbollah au Liban, défendre aujourd'hui un système dont ils sont les principaux bénéficiaires, puisqu'ils sont un État dans l'État. Donc on voit les victimes d'hier devenir d'une certaine façon les bourreaux d'aujourd'hui et voilà, c'est un peut-être un retour éternel, mais cela explique que la crise de l'État irakien soit liée à la crise de plusieurs autres États arabes dont l'effondrement est tout à fait possible. J'entends par là la Syrie, le Liban, la Libye, le Yémen, qui sont, sauf pour le Yémen, des créations coloniales qui n'ont pas réussi à créer des identités, tout simplement parce qu'elles sont liées à un clientélisme envers des minorités qui sont utilisées contre les majorités, ce qui empêche tout sentiment d'appartenance nationale, finalement.
Myriam Menrad, ce qui est étrange dans ce mouvement qui s'est développé à l'automne dernier, au début de cet hiver en Irak, c'est qu'effectivement, ces communautés qui tenaient leur population semblent tiraillées de l'intérieur, que la base chiite peut se retourner parfois contre l'élite chiite, par exemple, et qu'il y a là des particularités qui font que ça semble vraiment difficile de contrôler ce qui est en train de se passer, même si Américains et Iraniens tenteraient de le faire à travers leur conflit sur le terrain irakien. Adèle Bakawan, puisque nous avons perdu Myriam Benrad, cette question d'une base chiite contre l'élite chiite, par exemple, c'est quelque chose de nouveau, peut-être.
C'est-à-dire oui, que pour la première fois depuis 2003 à 2019, on assistait à l'émergence d'un mouvement qui n'était pas confessionnel, c'est-à-dire les sunnites contre les chiites. Un mouvement qui n'était pas ethnique, les Kurdes contre les Arabes, mais un mouvement vraiment à l'intérieur de la famille chiite, dans le territoire chiite, dans les provinces chiites, de la part d'une base sociale frustrée, abandonnée, livrée à elle-même, défavorisée contre les élites chiites hautement favorisées. Alors donc, le conflit était à l'intérieur de cette
même communauté.
Absolument.
Et tout de même, ce dont on a l'impression, c'est que ce qui est en train de se passer par l'intermédiaire de ces milices nombreuses sur le territoire irakien, Pierre-Jean Louisard, c'est que ces revendications qui, Adel Bakawan le disait, sont des revendications sociales de gens qui se trouvent dans une situation difficile, comme l'expliquait aussi Myriam Benrad, eh bien, sont en train de se retourner ou se détourner en manifestation, par exemple, anti-américaine. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension de manipulation, justement, d'une population qui, au départ, voulait des meilleures conditions de vie, comme l'expliquait Myriam Benrad et Adel Bakawan, et qui, maintenant, sont conduits peut-être à manifester contre l'anti-impérialisme, contre l'impérialisme américain?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau et qui n'est possible qu'au sein de la communauté chiite, hein, parce qu'elle se sait majoritaire et qu'elle peut prendre le risque d'un débat interne, voire d'une opposition interne, ce qui n'est pas possible chez les autres groupes kurdes ou arabes sunnites. Et c'est effectivement avec la montée du sentiment anti-iranien, on n'assiste pas pour autant à une montée d'un sentiment favorable à l'Amérique. Les gens ont compris que la situation désastreuse de la population irakienne, les chiites en premier lieu, est due à l'ingérence étrangère et au confessionnalisme politique.
Et quand vous dites ingérence étrangère, c'est
iranienne et américaine. Ouais. Et d'ailleurs, les dernières manifestations après les événements tragiques qui ont eu lieu avec la mort de Qassem Soleimani montraient des manifestants qui disaient ni Iran ni Amérique. Cela montre bien le lien qui est fait entre un État qui n'en finit pas de s'effondrer et l'ingérence étrangère qui utilise l'instabilité pour des intérêts propres.
Myriam Benrad.
Oui, je pense que c'est, pour répondre à votre question et rebondir sur ces commentaires, je crois qu'on est aussi sur un phénomène générationnel.
Ah, nous avons à nouveau un problème avec vous, malheureusement. Il faut rappeler effectivement que 60% de la population a moins de 25 ans. Je ne sais si vous m'entendez, Myriam Benrad, pas de chance, la ligne a été coupée. Adel Bakawan.
Donc moi j'ai eu la chance de prendre la... la place de Myriam. Deux commentaires. Le premier, on a énormément parlé de la dimension nationale de ce mouvement. Pour la première fois, on a un mouvement de contestation nationale. En réalité, ce mouvement n'est pas national. C'est un mouvement régional. Il faut le dire clairement. C'est un mouvement chiite à l'intérieur
du sud chiite
qui n'a jamais traversé vers les territoires sunnites ou les territoires kurdes. C'est vrai, il y a eu quelques sunnites ou quelques kurdes de Souleymaniye qui se sont déplacés à la place Tahrir, mais le mouvement reste majoritairement chiite, une base sociale chiite contre les élites chiites. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux, il faut nuancer, si vous me permettez, Monsieur Luzard, par rapport à les 12 ingérences. C'est vrai, à cette la base sociale irakienne, cette, surtout de la nouvelle génération, est contre, d'une manière générale, l'ingérence. Mais ce qui était beaucoup plus visible dans le mouvement de contestation, c'était le slogan Iran barra barra Arak tabra hurra. L'Iran dehors, l'Irak doit rester libre. Et rarement on entendait un slogan, par exemple, contre les Américains. Mais c'est récent après l'assassinat du général Qassem Soleimani.
Tout simplement parce que les Américains ont laissé un vide Iraniens ont comblé. Exactement. Depuis 2011, ils ont engagé leur retrait en anticipant l'effondrement actuel.
Exactement. C'est ce que je disais dans d'autres entretiens, c'est que les États-Unis d'Amérique, même quand ils étaient là en 2003, ils se déployaient dans des champs vraiment très très rétrécis, dans des territoires très très limités. Autrement dit, ils travaillaient sur quelques élites politiques. Par contre, la République islamique de l'Iran travailler et travaille encore la totalité de la société irakienne. Le champ éducatif, culturel, et même vous avez des oulémas, des imams sunnites, kurdes, convertis en chiisme à Erbil, ce qui n'a jamais été vu. Pourquoi ? Parce que la République islamique de l'Iran voulait et voit encore la totalité de la société irakienne. Et c'est pourquoi cette nouvelle génération était contre, par définition, de cette ingérence plutôt que d'autres.
Très brièvement, Pierre-Jean Luisin, puisque nous n'avons pas retrouvé...
Oui, peut-être en guise de de conclusion. Je voudrais ajouter qu'il n'est pas juste de comparer l'influence américaine et l'influence iranienne. L'Iran a des revendications qui sont légitimes en Irak parce que c'est un pays voisin qui partage avec la majorité irakienne chiite une même branche de l'islam. Et l'on sait que les chiites irakiens qui sont majoritairement arabes ont depuis la nuit des temps des dirigeants religieux qui sont iraniens. Et la révolution de 1920 contre le mandat britannique a été le fait de tribus arabes chiites qui répondaient à l'appel à l'insurrection d'ouléma persan.
Merci beaucoup. Merci. C'était le temps du débat. Merci à vous trois. Myriam Benrad au téléphone, Pierre-Jean Luisard ici en studio, ainsi que Adèle Bakawan. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Louise André. À la technique, Jacques Hézubert. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.